Question d'islam par Ghalib Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons d'information, du traitement de l'information, tout particulièrement concernant le fait islamique, la donne islamique. Pour beaucoup de nos auditeurs et au-delà et de nos semblables, dans ce monde-ci, le vocable islam est très anxiogène, il génère beaucoup de fantasmes. C'est un sujet explosif, synonyme de débats hystériques, sans fin. Et alors, il n'y a pas mieux que sur un média public d'aborder ces questions avec calme, sérénité, distanciation et avec aussi un support médiatique qui est Saphir News. Et j'ai plaisir à recevoir aujourd'hui aussi bien son cofondateur et son directeur exécutif, Mourad Latrache, qui est ingénieur télécommunication, très tôt intéressé par les nouvelles technologies dans le cadre de l'information, et le rédacteur en chef, ou rédactrice en chef, Ehanan Ben Houma. Merci à vous deux, merci à l'un et à l'autre. Comment êtes-vous amené à fonder, vous êtes cofondateur, Mourad Latrache, à ce journal en ligne qu'est Saphir News?
Alors c'est très simple, vous avez très bien introduit le sujet en parlant de climat anxiogène sur ces questions-là. Effectivement, à l'époque, en 99, j'étais encore un jeune étudiant avec...
Donc il a 20 ans, le journal?
L'idée a 20 ans. Et la concrétisation a un peu moins de temps parce que Saphir News en fait a été créé en 2002. Mais la démarche a été initiée effectivement en amont en 99 en formant un groupe de réflexion de jeunes et moins jeunes sur l'intérêt de faire émerger un média à référence musulmane. Et à l'époque, on parlait plutôt de magazines papier. Et puis, il y avait une partie de l'équipe qui était plutôt de ma génération, qui était plutôt pour le web. Et donc, effectivement, à l'époque, il y avait une vive discussion sur le support à utiliser. Mais l'objectif était tout simplement de produire un contenu contextualisé à la France et qui parlerait à un public à référence musulmane français, avec toute la culture, avec tout le contexte qui va avec. Donc, c'était la réflexion qui avait été engagée avec un groupe de travail qui a abouti dans un premier temps à un premier essai d'un magazine qui s'appelait Saphir le médiateur, qui a duré pendant 2 ans. Et puis, c'est de là qu'est surgie l'idée de se lancer sur le web. Il faut rappeler que le web n'est pas si ancien que ça, hein. Qu'en 2000, on était tout au début du web en France.
On était dans sa proto-histoire, en quelque sorte.
Exactement, tout à fait. Et donc, l'idée a émergé de plutôt utiliser le support parce qu'il y avait aussi la vocation à parler à un public jeune aussi. Donc, pour nous, ça nous paraissait le média vraiment adapté. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'est né Saphir News. Mais surtout, pour être très honnête avec vous, ce qui a vraiment marqué un tournant dans ce groupe de réflexion, c'est le 11 septembre 2001. Donc ça avait vraiment bousculé notre réflexion parce que on a pris conscience à quel point le traitement médiatique du fait musulman était important.
Et alors, ce serait, j'utilise le conditionnel à dessein, une manière de rattraper, rectifier, contrebalancer, voire contrecarrer les thèses qui sont débitées tout au long de l'information dans les médias lourds, ou c'est simplement une contribution à rectifiant une information juste ou dite de l'intérieur, puisque vous avez parlé de public à référent islamique. Quelle était la motivation première?
Alors, il y avait un débat, c'est-à-dire qu'effectivement, certains prônaient un juste rééquilibrage en disant qu'en apportant notre voix, on va rééquilibrer le discours un peu caricatural de l'islam ou l'incompréhension. Et puis d'autres qui ne souhaitaient pas rentrer dans un mécanisme de réaction, de vouloir réagir à des propos qui seraient tenus sur les musulmans ou sur l'islam. Et c'est plutôt le deuxième groupe qui a plutôt réussi à convaincre l'ensemble, c'est-à-dire en disant que je pense que ce qui a fait défaut aux musulmans de France, c'est de ne pas avoir un média qui les représente ou qui, en tout cas, reflète leur réalité. Et c'est ce manque-là qui crée ce déséquilibre. Donc il fallait faire une offre et non pas une réaction à ce que pourraient mal faire certains médias, par exemple. En fait, quand on analyse, nous, le travail des journalistes à l'époque, on l'avait vraiment analysé parce que on essayait de cerner quelle était la problématique, pourquoi les médias ne traitaient la question de l'islam et des musulmans que sous l'angle anxiogène, c'est-à-dire soit géopolitique, quand on avait une guerre dans un pays musulman ou en tout cas les musulmans étaient concernés, ou sous l'angle sécuritaire, quand il s'agissait de la France. Et donc, ces deux angles qui étaient largement prisés par les médias, on se posait la question, le pourquoi. Et donc, effectivement, on a constaté très vite que ce n'était pas une malhonnêteté de certains journalistes ou de médias que de vouloir traiter ces sujets sur cet angle-là. C'était le seul angle qui faisait ressurgir la question de l'islam et des musulmans dans l'espace public. Et donc là, il s'agissait de faire une offre en disant que nous, on va chercher dans la quotidienneté des musulmans et ressortir leur réalité et leurs préoccupations et finalement démontrer qu'ils font partie de la société et partagent les mêmes préoccupations au final. Mais sauf que là, il s'agissait de leur donner une visibilité et surtout partager avec l'ensemble de la société leur réalité.
Et leurs préoccupations.
Et leurs préoccupations, effectivement.
Hanan Ben Al-Houma, vous êtes rédactrice en chef maintenant, journaliste, je l'ai dit. Vous avez rejoint, si je puis dire, le groupe, parce que j'espère que ce journal grandira et deviendra véritablement un groupe. J'ai cru comprendre en 2008. Pourquoi spécialement ce média, ce médium, allez, je l'utilise le terme approprié, et pourquoi, d'ailleurs, à vous deux, avant la réponse de Hanan, l'appellation Saphir News, Saphir, ça renvoie à une pierre précieuse. D'où est venue l'idée ?
Merci pour la question, parce que je vous assure qu'on a mis du temps avant de trouver le nom. Et je vais vous donner les contraintes qu'on avait émises pour trouver le nom. On avait mis des contraintes de par notre conviction. Il s'agissait de trouver un nom qui permettait de refléter notre travail, qui permettait de refléter le public qu'on était censé représenter à travers ce média. Et surtout, on avait la contrainte de choisir un nom qui avait une signification auprès de notre public, mais aussi auprès de la société française. Donc il ne s'agissait absolument pas de choisir un nom à consonance arabe, par exemple. Ça, c'était quelque chose qui avait été rejeté d'une manière catégorique pour ne pas renvoyer notre travail à l'étranger ou à d'autres sujets qui ne nous concernaient pas, nous.
Donc, d'ailleurs, qui dit islamique ne dit pas nécessairement arabe. D'ailleurs.
Voilà, tout simplement, voilà, il ne fallait pas réduire l'islam à justement, effectivement. Et très vite, on est arrivé à trouver quelques noms, et parmi eux, Saphir, qui avait une double signification. Qui a une signification en français qui est la perle précieuse avec des facettes. Et donc là, il s'agit de faire un travail médiatique qui montrerait les facettes de l'islam et des musulmans. Donc c'était pour nous, la perle précieuse, le saphir était vraiment donné. Il y avait aussi la beauté. Il s'agissait aussi de montrer aussi ce qu'il y avait de positif, sans négliger bien sûr le côté négatif, mais il s'agissait aussi de mettre en évidence positif. Et puis il y avait une double signification, parce que le mot saphir en arabe voulait aussi dire médiateur, ambassadeur.
Oui. L'émissaire.
Et donc effectivement, je pense qu'on avait aussi cette vocation à travers notre média d'être l'ambassadeur et donc le médiateur entre cette population-là et l'ensemble de la population française.
Bien, alors vous avez répondu à la place de Hanan. Maintenant, si vous voulez bien, s'il vous plaît, nous dire quelles sont vos motivations, comment ça s'est fait, comment avez-vous fait pour rejoindre ce groupe ?
Alors moi, je suis arrivée justement, comme vous l'avez dit, en 2008, lorsque Saphir News opérait un tournant professionnel, puisque auparavant, Saphir News était principalement gérée par une équipe de bénévoles. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai été attirée par Saphir News, absolument pas par la référence musulmane du média, contrairement à ce que mon apparence pourrait laisser suggérer, mais bien par la dimension professionnelle et... la démarche journalistique dans laquelle s'ancrait profondément Saphir News. Donc moi, j'y ai découvert en tout cas un espace dans lequel je pouvais exercer pleinement mon métier de journaliste, comme dans n'importe quelle rédaction, à ceci près que c'est une petite équipe. Donc à toute fin utile, je rappelle que Saphir News est aussi un média indépendant qui ne dépend d'aucune organisation politique ou religieuse, ni d'aucune idéologie. Donc... j'ai aussi découvert un espace dans lequel il y avait des convictions fortes, dans lesquelles les valeurs d'engagement et de responsabilité étaient présentes. Donc moi, j'ai toujours mis un point d'honneur dans mes actions, à ne jamais me placer dans, je dirais, une logique, entre guillemets, de contribution communautaire, mais bien une logique de contribution à la société. Et c'est ce que Saphir News fait, en tout cas à son échelle, en faisant un travail... d'intérêt général. Voilà pour ce qui concerne mes motivations. Après, pour compléter peut-être des propos de Morad concernant le traitement anxiogène, c'est que nous, on y a trouvé parmi les réponses, c'est la mission que s'est donnée Saphir News, c'était de pouvoir donner, avoir les réalités au pluriel, et j'insiste, des musulmans dans notre société, dans laquelle vivent nos concitoyens musulmans. Et de cette façon, on participe à normaliser la présence musulmane également en France, en rappelant que déjà l'islam n'est pas une religion exogène à la France, et à la fois que les musulmans sont des citoyens à part entière, puisque aujourd'hui on a tendance malheureusement à réduire les musulmans dans leur seule identité religieuse, ce sur quoi on travaille justement dans l'autre sens. Voilà.
Sans vouloir le dire nécessairement, j'ai l'habitude de dire par moments, il n'y a aucune raison de souligner la neige en plein hiver. C'est dans l'ordre naturel des choses. Donc, Mourad Latrache, comment les décisions sont-elles prises dans la rédaction? C'est comme dans toute rédaction. Encore une fois, ce ne sont pas des considérations communautaires, voire communautariste, même si le mot doit être nécessairement précisé, que ça se décide. C'est d'abord une information avec la déontologie, le professionnalisme, l'éthique des membres de la rédaction, et c'est ce que vous pensez être nécessaire à faire savoir qui prime.
Tout à fait. Donc effectivement, nous, on avait bien conscience à l'époque, on était encore jeunes quand on a lancé Saphir News, qu'il fallait rompre avec... l'ancien modèle. Moi, je travaillais à l'époque dans une multinationale française, un groupe de BTP, et j'avais déjà cette culture de la hiérarchie, des prises de décision qui viennent d'en haut, etc. Et moi, je fais partie de cette génération, j'ai aujourd'hui 40 ans, et qui voulait rompre avec ce mode de gestion d'une société ou d'un projet. Donc effectivement, Saphir News s'est construit autour de personnes qui sont venues malgré tout avec un engagement. Alors, c'est pas forcément celui qu'on pense. C'est-à-dire que, par exemple, quand Anand vous raconte que c'était son engagement dans le journalisme, dans une vision du journalisme qu'elle s'est retrouvée dans Saphir News, je pense que certains d'entre eux aussi étaient venus, parmi eux, des non-musulmans, je le rappelle. On a eu une bonne partie de notre équipe qui ne sont pas du tout musulmans, mais qui voulaient contribuer à la société. Et je pense qu'on avait à cœur d'avoir une organisation qui impliquait toute l'équipe dans les orientations, dans les choix. On était en mode de co-construction d'un média. Et on a, avec le cofondateur Mohamed Colin, on a souvent dit que Saphir News n'est qu'un prototype de ce qu'on voudrait voir un jour comme média à référence. sachant que nous, effectivement, le parallèle qui nous paraît le plus adéquat, ce serait La Croix, par exemple, qui est effectivement un journal généraliste, qui est reconnu en tant que tel et qui a aussi des références catholiques et qui a surtout, là, on partage totalement la vision, par exemple, de La Croix sur le côté humaniste, sur le côté le traitement humain, avec une vision humaine de l'actualité et donc avec un sens de la responsabilité.
Oui, je reviens simplement pour régler cette affaire, si je puis dire, de l'indépendance. Le journal n'est pas soumis à telle ou telle ombre tutélaire. Il n'est pas inféodé à tel groupe. Il y a une indépendance totale du point de vue de l'idéologie et aussi financièrement. Donc sa vie de la publicité,
c'est tout à fait, tout à fait. Donc on a essayé de créer un nouveau modèle économique autour de notre média en se basant sur les recettes qui ont fonctionné. On n'allait pas réinventer l'eau chaude, mais il s'agissait quand même dans le cadre dans lequel on se retrouvait, c'est-à-dire un média émergent avec le support web qui n'était pas subventionné de la même façon que la presse écrite papier. Et donc il y avait des contraintes qui étaient afférentes à l'ensemble des médias, ce qu'on appelle pure player, donc c'est-à-dire exclusivement sur le web. Et donc effectivement, le modèle économique à l'époque, c'était la publicité. Entre-temps, il y a eu d'autres modèles qui ont été testés, comme celui de Mediapart, donc le modèle payant. Mais effectivement, c'est le modèle pour lequel on a opté, qui nous permettait surtout d'avoir une indépendance totale de par notre travail. C'est vrai que notre indépendance, qu'elle soit idéologique, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que parmi les fondateurs, certains faisaient partie de certaines organisations musulmanes et qui justement ne trouvaient pas la liberté nécessaire dans leur propre organisation, qui se sont joints à nous. Donc il fallait absolument préserver cette indépendance. Et parfois, les tentations de certaines organisations à vouloir justement influencer notre média étaient très présentes et il fallait résister.
Il y avait une sorte de tentation à l'hégémonisme, si je puis dire.
Tout à fait. Et effectivement, certaines tentances voulaient effectivement influer, mais c'est leur droit. Et nous, c'était notre devoir.
C'est leur droit de tenter.
De tenter. Et nous, notre devoir de résister.
Oui, Hanan Ben Houma, comment, sans vouloir nécessairement donner ou nommer telle ou telle organisation, ce genre de tentative, c'est quoi, par suggestion, par injonction, ça se faisait comment?
Un peu des deux, en fait. C'est clair que, de par justement notre référence musulmane, on était à leurs yeux censés pouvoir aller dans leur sens. Voilà. Quant à la distribution de l'information qui les concernait, nous, notre credo, c'est le professionnalisme, c'est la neutralité et l'indépendance. Mais également le pluralisme. Donc nous, notre support va s'attacher vraiment à donner, à voir une diversité de points de vue à travers donc soit nos articles, sur divers sujets de société, ou bien à travers l'espace de débat qui existe, l'espace point de vue qui permet à des contributeurs extérieurs de pouvoir exprimer leur point de vue également sur des sujets d'intérêt pour eux. Donc nous, on est soumis, en ce qui concerne en tant que journaliste, à un code de déontologie. Donc, on fait en sorte, justement, à ce que l'information qui va paraître sur Saphir News puisse être la plus fidèle possible des réalités, et en s'attachant à donner la parole aux personnes concernées même à offrir la contradiction aussi aux personnes.
We'll be right back.
sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de médias, d'information, d'un média qui est à référence islamique, mais qui se veut avant tout indépendant et de portée généraliste. Et nous nous retrouvons avec deux de ses représentants. Il s'agit de Saphir News. D'abord avec son cofondateur et directeur de l'exécutif du média lui-même, de formation ingénieur en télécommunication avant tout, féru des questions de web, de médias en ligne. Et Mourad Latrache et Hanan Benhouma est la rédactrice en chef, journaliste bien formée. Nous étions en train de dire, Mourad Latrache, qu'il y a cette indépendance. Certaines organisations auraient souhaité que ce média fût un peu leur porte-parole. Ce n'est pas le cas. Vous leur donnez la priorité quand il s'agit d'une information particulière, mais ce n'est pas nécessairement dans le sens d'être leur organe central. Et comment, donc, à un moment donné ou à un autre, vous arrivez à avoir l'équilibre dans l'information? C'est le fait d'osciller de part et d'autre, ou comment ça se passe?
Tout à fait. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir de faire notre travail tout en essayant d'apporter une visibilité à l'ensemble des expressions de l'islam en France. C'est justement ce pluralisme qui nous le permet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne une visibilité sur ce qui se passe au sein des musulmans de France, y compris à travers les organisations qui mènent un travail dans les différents champs, qu'ils soient culturels, éducatifs ou sociaux. Donc la difficulté pour nous, c'est que parfois certains souhaiteraient faire de Saphir News un support de communication de leur organisation, de leur vision. Donc nous, on explique qu'on n'est certainement pas là pour ça et qu'on a un rôle, je dirais, médiatique pour l'ensemble de la société française et que nous sommes là surtout pour mieux traiter le fait musulman que pourraient le faire nos confrères, non pas parce qu'ils ne souhaitent pas, mais qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, parce que, à la différence de nos confrères journalistes, nous nous sommes spécialisés sur le fait musulman dans le sens où nous avons décidé de traiter la quotidienneté des musulmans et donc de le faire d'une manière quotidienne, forcément. Ce n'est pas forcément possible pour les médias généralistes qui ont d'énormes sujets à traiter tous les jours et donc qui n'ont pas forcément le temps et la connaissance nécessaire pour le faire. Donc il s'agissait aussi, pour revenir sur l'historique, il faut rappeler qu'à l'époque, le principal bouc émissaire qui avait été trouvé pour justifier l'image négative des musulmans, c'était les médias et les journalistes. Ça l'est encore aujourd'hui, mais ça a été très marqué à la naissance de Saphir News, quand je vous ai parlé durant septembre. Pour les auditeurs qui se souviennent, où les musulmans ont été pointés du doigt comme étant, les responsables de cet événement qui est le 11 septembre. Et du coup, les musulmans avaient une image très négative des médias occidentaux d'une manière générale et en l'occurrence français. Et donc nous, il fallait qu'on vienne s'inscrire dans cette famille-là de journalistes. Et c'était très difficile parce que c'était nouveau. Je pense qu'il n'y a aucun média qui avait fait cette démarche-là avant nous. Et malheureusement, aujourd'hui encore, on est vraiment seul à être dans cette famille de journalistes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on fait partie des associations de journalistes qui travaillent sur le fait religieux, par exemple. On fait partie...
L'AGIR, des journalistes, voilà. D'information religieuse.
Voilà, donc nous sommes très impliqués dans cette association. Nous faisons partie aussi d'un réseau de journalistes qui travaillent sur l'information et sur la lutte contre ce qu'on appelle les fake news. Mais moi, j'aime pas trop employer ce terme-là. On parle d'infox. Donc c'est plutôt une information, pas forcément erronée, mais détournée. Donc on a une participation importante sur ce réseau européen qui s'est créé et on travaille activement. Donc on s'inscrit totalement dans cette famille de médias et de journalistes. Et pour nous, il s'agit de faire d'abord un travail journalistique. Alors pour revenir sur l'expérience qu'on a avec certains acteurs musulmans et le rôle qu'ils veulent nous faire jouer de communicants, c'est toujours difficile de leur expliquer. Et je me souviens d'une anecdote où on a traité une question qui était le halal, et on avait un traitement très dur par rapport à ce sujet-là. Et un des acteurs nous reprochait d'être plus journaliste que journaliste. Donc, c'est dire...
Il devrait se réjouir.
Dans sa bouche, c'était plutôt négatif. Et donc, c'est vous dire quelle l'image qu'on a des journalistes et que pour eux, c'était vraiment un défaut d'être journaliste. Et donc, voilà. Donc, on fait ce travail-là. Et effectivement, le pluralisme nous permet d'avoir cette neutralité nécessaire pour...
Effectivement, par rapport à notre mission qu'on s'est donnée, donc à savoir de médiatiser les réalités vécues par les musulmans, on le fait sans tomber dans ce qu'on appelle un angélisme béat. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi affronter les problèmes qui traversent les communautés musulmanes. Donc on n'hésite pas à pointer du doigt les problèmes dès lors que elles s'affichent devant nous. Et je dirais que l'une des conséquences en fait aujourd'hui du traitement anxiogène du fait musulman, ça a été aussi la construction des discours de la part de ce qu'on appelle les musulmans, d'une défiance, d'une méfiance à l'égard de la classe médiatique, donc des médias et des journalistes. Cette défiance, elle va conduire à des discours qui vont essentialiser les médias. Et justement, c'est quelque chose sur lequel on refuse de surfer. Donc, Safir News n'existe pas contre les autres. Elle ne s'est pas non plus construite contre les autres, mais bien dans ce que j'appelle une logique contributive qui consiste à améliorer une situation donnée et à faire bouger les lignes. Donc, nous avons effectivement une maîtrise de l'environnement dans lequel tel ou tel acteur ou telle organisation va évoluer. Une compréhension aussi, quelque part, de l'état psychologique dans lequel se retrouve à peu près une partie de nos chers co-religionnaires et qui va permettre sans doute à une partie des acteurs de pouvoir s'ouvrir à nous, de pouvoir peut-être même se confier à nous sur les situations qu'ils vivent. Et quelque part, on va rétablir une sorte de lien de confiance entre les médias, les journalistes et les musulmans. On joue aussi quelque part un rôle de facilitateur avec les journalistes. Disons que pour nous, Safir News ne prétend pas être la solution. C'est-à-dire qu'un meilleur traitement aujourd'hui du fait musulman ne passe pas uniquement par une production d'articles qui va alimenter notre support, mais elle va aussi passer à travers des interactions qu'on va avoir avec nos confrères et nos consoeurs, qu'on va voir régulièrement, notamment sur le terrain, et avec lesquels on va nouer des échanges. On va aussi leur donner parfois du conseil, de l'expertise, afin justement qu'ils appréhendent mieux le sujet sur lequel ils vont travailler ou sur lequel ils veulent travailler. Donc c'est ainsi que nous sommes amenés à notamment intégrer alors le syndicat de la presse indépendante, le SPIL, AGIR, l'association des journalistes de l'information religieuse qui est aujourd'hui présidée par Geneviève Delru, journaliste à RFI. Voilà, nous ne restons vraiment pas du tout enfermés sur nous-mêmes, c'est vraiment très important de le préciser. Nous, on n'attend pas juste que les choses changent en priant. Voilà, c'est vraiment on agit pour que
oui. Faire bouger. Et alors, j'ai compris que ce qui est un peu le cœur du métier, en tout cas particulièrement pour Safir News, c'est le traitement des réalités au quotidien. J'ai entendu le pluriel aussi des communautés musulmanes. C'est en vue, à défaut d'harmoniser, au moins de normaliser, de banaliser la vie naturellement des citoyens musulmans et des résidents musulmans en France, d'abord les citoyens dans le cadre de leur société globale avec les préoccupations d'un citoyen qui doit s'acquitter de ses devoirs et jouir de ses droits.
Tout à fait, et vous avez employé le mot pluriel des communautés. Pour nous, c'est quelque chose sur lequel on est très très attaché. C'est-à-dire que
j'ai repris celui de Hanan.
Tout à fait. Non, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous. Alors, s'il faut nous trouver des axes militantes, il en ferait partie parce que la vision que certains prônent de l'islam, et je parle de justement parmi les musulmans, c'est le fantasme d'une umma unie, donc d'une communauté unie. Et presque unifié, qui aurait les mêmes objectifs, qui aurait la même vision des choses, on s'inscrit en faux par rapport à cette théorie et par rapport à ce fantasme. Aujourd'hui, et je pense que même les textes religieux musulmans, vous me confirmerez qu'ils prônent le pluralisme, la diversité, quelque chose de presque comme une bénédiction. Donc effectivement,
dans la divergence des savants, il y a une miséricorde.
Tout à fait. Et donc effectivement, nous, au contraire, on n'en fait pas un problème ou un défaut, mais bien au contraire une richesse. Cette diversité, je pense qu'il faut la faire vivre et on contribue en proposant un espace d'expression à cette diversité-là et en mettant en évidence cette diversité à travers notre travail journalistique. Effectivement, parfois, vous allez retrouver une tendance majoritaire au sein des musulmans de France. Il s'agit aussi de donner de la place à certaines minoritaires qui n'ont pas forcément l'espace médiatique, et on a énormément de minorités, notamment celles qui me viennent à l'esprit très rapidement, c'est les Ahmadis ou d'autres minorités qui sont marginalisées dans l'ensemble du monde musulman et que nous, on va faire l'effort d'aller leur donner une visibilité pour montrer cette diversité. Il y a aussi certaines visions qui sont parfois disqualifiées par d'autres. Il s'agit, nous, de les remettre dans la course, dans cette diversité, dans cette expression diverse de vision qu'on a de leur spiritualité, etc. Donc là, il s'agissait aussi de mettre en évidence des débats qui sont parfois un petit peu
emportés.
Voilà, emportés ou parfois difficiles à traiter. Je donne un exemple, par exemple, quand la société française s'empare d'un sujet tel que l'homosexualité, par exemple, et notamment à l'occasion de proposition de loi à l'époque de ce qu'on a appelé le mariage pour tous. Donc, il s'agissait que les musulmans prennent part aussi à ce débat-là de société et de pouvoir aussi discuter d'un thème si douloureux.
Parce que ça les concerne comme membres, comme frange de la société française.
Tout à fait. Oui. Et donc, comment un média comme le nôtre peut...
Pourquoi est-ce qu'il est un thème douloureux ?
Parce que c'est quelque chose qui est très difficile pour certaines cultures. Et là, je ne parle même pas de religion, je parle de culture, et notamment arabe, qui est un tabou pour une bonne partie. Et là, encore une fois, je parle sur l'aspect culturel. Et du coup, c'est un... pour certains, c'est un non-sujet. Donc, c'est pour vous dire.
Un impensable.
Donc, effectivement, nous, il s'agissait, encore une fois, d'inscrire les musulmans dans ce débat global de la société. Là, pour le coup, elle n'est pas que société française, c'est dans l'ensemble. Donc, comment donner la parole à certains, par exemple, musulmans qui se revendiquent homosexuels. Par exemple, il s'agissait de, pour nous, en tant que médias, plutôt de donner la parole que de donner un point de vue. Et donc, réussir à le faire, il faut vraiment avoir une sacrée confiance de nos lecteurs et de l'ensemble des acteurs musulmans, sans nous reprocher des arrière-pensées ou quoi que ce soit. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi, parce qu'on y a mis aussi les moyens pédagogiques, une bienveillance aussi. C'est quelque chose, c'est un mot qui revient souvent quand
pour
on
les
parle
uns
de Safia Nous.
Tout à fait. Pour les autres, c'est-à-dire vous avez réussi à donner l'espace de la contradiction avec une éthique du débat.
Tout à fait, parce que nous, on s'inscrit en faux contre ceux qui, justement, veulent absolument invisibiliser un certain nombre de sujets parce que, à leurs yeux, tabous, parce que, à leurs yeux, l'islam ne permettrait pas que ce genre de pratique puisse exister. Donc voilà, nous, vraiment, Safir Nous, on s'attache à permettre aux personnes dans leur diversité, aussi bien d'opinion que de pratique, de pouvoir s'exprimer et dire les réalités dans lesquelles ils vivent et dire leur point de vue, parce que tout simplement, ils ont le droit d'exister. Voilà.
Mourad Lattache, comment ont été les réactions de ceux qui étaient plutôt contre ? Elles étaient virulentes dans un premier temps, puis elles se sont apaisées suite à la pédagogie dont vous parlez. Ou comment les choses se sont-elles présentées ?
Alors, vous dites bien que quand on traite ce genre de sujet, on met du temps avant d'arriver à le faire. Sur Safir News, il a fallu une existence de plus d'une dizaine d'années avant de réussir à traiter un sujet autant que tel. Mais l'actualité se présentait à ce moment qu'au bout de 10 ans. Mais il s'agissait surtout de dire, pour ceux qui effectivement nient, en tout cas ce débat-là au sein de l'islam, c'est-à-dire le sujet de l'homosexualité, c'est déjà, il s'agissait à l'époque de dire « ça c'est du Safir News ». C'est-à-dire qu'en gros, c'est à l'image de notre média qui a fait écho de tous les débats de société en leur donnant une participation musulmane. Et que Safir News s'est toujours refusé, par exemple, de se positionner sur le plan religieux. C'est-à-dire que autant elle peut donner la parole à des acteurs religieux, mais qu'ils s'inscrivent dans ce registre-là. Il s'agissait bien de distinguer ce qui est de l'opinion personnelle de la théologie musulmane.
Selon ces différentes écoles.
Tout à fait. Et donc, nous, on a toujours eu le soin de bien distinguer ces différents espaces. Et du coup, les gens ont bien compris qu'il ne s'agissait pas là de se positionner sur un débat théologique sur le sujet, mais sur le plan sociétal. C'est-à-dire qu'il existe des êtres humains qui se revendiquent homosexuels. Et est-ce qu'on peut discuter avec eux? Est-ce qu'on peut les intégrer dans notre société ou pas? Donc on a pris le soin de placer le débat sur cet angle-là. Et je pense que ça a été plutôt... On a eu la surprise de ne pas avoir de réaction hyper virulente, bien sûr hostile, mais pas virulente et violente vis-à-vis de notre média, mais plutôt vis-à-vis de la question. Mmh. Et donc là, cette distinction qui a été faite entre le média qui en parle et le sujet qui peut choquer certains, et pour nous, était une bonne surprise.
Et de l'autre côté, ceux qui vous ont su gré d'avoir abordé le sujet aussi.
Alors, pour le coup, ça n'a pas été vraiment exprimé, mais ce n'était pas non plus le but recherché. Le but, c'était surtout de pouvoir gagner en maturité auprès de notre public pour pouvoir discuter de ce sujet-là. Et ça, je pense que c'était de l'autre côté. Ça reste au sein de la communauté musulmane une très petite minorité donc, qui effectivement s'est exprimée en se réjouissant qu'un média comme le nôtre puisse traiter ces thèmes-là. Mais si on doit élargir à l'ensemble des personnes qui seraient plutôt en appétit de ce genre de thèmes, n'ont pas exprimé une réaction particulière.
Hanan, la palette, pour ne pas dire le spectre des sujets traités ou même des sensibilités, va depuis les mosquées, je parle de mosquées, j'ai compris que votre approche n'est pas nécessairement ni exclusivement religieuse, des mosquées dites un peu conservatrices, pour ne pas utiliser un autre terme un peu dans les médias, dit salafiste, et ça va jusqu'à l'une ou l'autre qui serait maintenant ouverte ou inclusive ou que sais-je encore. La palette est celle-là?
C'est ça, tout à fait. Alors justement, pour expliquer l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas eu tant d'hostilité qu'on aurait pu l'imaginer vis-à-vis du média qu'est Saphir News, c'est également parce que c'est le résultat aussi d'un travail que l'on fait depuis nos débuts, c'est-à-dire que nous, on est vraiment dans une logique, alors il a employé le terme de bienveillance, mais aussi d'apaisement.
Amour de la trash, oui.
Tout à fait, exactement. On n'est pas du tout là à traiter les sujets sous leur forme polémique. Voilà. Donc, c'est ce qui fait aussi que, les interlocuteurs, les lecteurs nous reconnaissent au moins cette façon de travailler dans l'apaisement, dans la sérénité, et qui fait qu'on est quelque part aussi préservé, voilà, de l'hostilité.
Est-ce que des sujets qui sont sans fin, qui reviennent tout le temps à l'occasion du burkini, à l'occasion de tel ou tel pic comme ça, pic au sens où on a un regain d'intérêt, vous les abordez ou vous dites que ça fait un peu de l'écume des choses et on passe à quelque chose de plus important? Ou vous leur donnez l'écho juste nécessaire et puis puisque vous parlez de quotidienneté même au pluriel, il y a des choses plus importantes.
Alors oui, on va les aborder parce que bon, les médias ont un rôle d'information, mais on ne va pas surexagérer la polémique. Effectivement, on a aussi, j'estime en tout cas que les médias ont un rôle d'éducation et de transmission au sens noble du terme. Donc, pour revenir sur ces éternelles polémiques qui reviennent, notamment concernant le voile. Moi, je dirais que je n'en veux pas tant aux identitaires ou à l'extrême droite islamophobe qui, quelque part, est dans son rôle, en fait, de pouvoir dénoncer à tout va ce qui, à leurs yeux, ne fait pas partie de l'identité française, ou en tout cas de ce qu'ils définissent comme tel. Je n'en veux pas non plus tant que ça aux détracteurs du voile. Voilà, pour qui, encore une fois, la liberté d'expression et d'opinion leur permet de critiquer ce dont ils ont envie. Voilà, tant qu'encore une fois, les limites ne sont pas dépassées, comme la haine et le racisme. Maintenant, je vais plutôt pointer du doigt les responsabilités d'une part d'une partie de la classe politique qui va récupérer ce genre de sujet pour faire diversion sur de vrais sujets de société, voilà, détourner l'attention, on va dire, de l'opinion publique en reprenant à leur compte ces polémiques. Et d'une partie, des médias. Alors je dis bien des médias parce que j'ai pas non plus envie de généraliser. Il y a aussi toujours des journalistes qui font du très bon travail dans ces types d'épisodes. Et en fait, c'est à eux aussi de ne pas surexagérer, voilà, la polémique en ajoutant du débat au débat, en donnant la parole à des personnalités dont on connaît, qui sont de notoriété publique pour faire passer des messages qui vont contribuer à fracturer davantage la société. Aussi, je dirais, la responsabilité du média, c'est aussi de pouvoir donner la parole aux personnes concernées et de diversifier leur plateau. Voilà les deux responsabilités principales sur lesquelles je voudrais axer, donc médiatique et politique, et également celle des musulmans, je dirais, de ne pas s'enfermer dans une posture victimaire. Voilà, il nous importe aujourd'hui à ce qu'ils puissent être responsables et face à ce genre de polémique, la réponse ne devrait pas être celle de l'enfermement, mais plutôt continuer à persévérer et à travailler dans la société et à contribuer, à briller dans leur domaine tel qu'il soit. Je pense que c'est important en tout cas de le souligner.
Questions d'islam. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam et des médias d'une manière générale. Et c'est à travers Saphir News, qui est un média à référence islamique, mais qui se veut avant tout un média plutôt d'information généraliste. Nous sommes avec son cofondateur, Mourad Latrache, directeur de l'exécutif même, ingénieur en télécommunications, et féru de support web pour l'information, et Hanan Benrouma, qui est rédactrice en chef du dit média, Saphir News, et journaliste elle-même, bien entendu. Pour cette dernière partie, Mourad Latrache, comment petit à petit vous pensez inscrire le fait islamique dans le paysage médiatique français sans qu'il soit synonyme d'épouvante, de vilainie, de quelque chose de négatif. J'ai pour habitude de dire que si nous devions nous informer à travers l'unique canal de la revue Détective de ce qui se passe dans la société française, il y a de quoi désespérer de l'âme humaine en France. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une focalisation que sur le vil, le pervers, le négatif, le maladif, à un moment donné, on désespère, alors qu'un média se veut avant tout un organe d'éducation de masse.
Moi, je dirais qu'il faudrait remettre le citoyen français de confession musulmane au centre de ce combat, si on peut appeler ça un combat, c'est-à-dire de rétablir une juste image de ce que sont les musulmans en France. Et je pense que chaque musulman a pu vivre au moins une fois dans sa vie une expérience où ils entretiennent de très bonnes relations avec leurs concitoyens non musulmans et qui, à un moment donné, on lui fait la remarque « Si tous les musulmans étaient comme toi, on n'en serait pas là. » Et quand on a une multitude d'expériences de ce type-là, on se dit que finalement, les musulmans, dans leur majorité, ils sont plutôt bien intégrés dans leur environnement et que c'est par là que passera justement la solution à rétablir une réelle image de ce que sont les musulmans. Et aujourd'hui, nous, on joue notre rôle en tant que média de médiatiser ces réalités-là. Et je pense que c'est avant tout comme ça qu'on y arrivera à changer la donne, parce que il s'agit aussi de calmer un petit peu l'emballement médiatique sur ces sujets-là. Alors nous, on parle de faits musulmans et d'une manière volontaire, c'est-à-dire que on ramène la question à la personne qui est musulmane et non pas à l'islam qui est une religion. C'est une volonté de ne pas de présenter les choses en tant que telles, parce que nous, on est là surtout pour refléter une réalité culturelle, sociologique des personnes. Mais je comprends qu'il y a un autre débat qui est sur l'islam et de la compréhension qu'on a de cette religion, qui n'est pas du tout de notre sort. On essaie d'y contribuer à travers un espace de débat sur notre média ou sur nos médias, parce que je si vous me permettez, je voulais aussi présenter un autre média qu'on a initié qui est Salam News, qui permet justement
c'est pour ça que j'ai parlé de groupe au début.
Tout à fait. Donc effectivement, il s'agissait d'offrir un espace de débat aussi aux acteurs religieux.
Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Salam, il y a le mot Salam, donc la notion de paix, de salut.
Tout à fait. Donc effectivement, d'ailleurs, à l'arrivée de Hanan Ben Rouma pour nous aider sur la partie Safir News, nous avons créé un magazine papier gratuit qui est Salam News, qui est diffusé à 100 000 exemplaires dans toute la France, plutôt dans les grandes villes de France. Il a vocation à représenter cette diversité, cette richesse culturel de
l'islam. Il est périodique, il est mensuel.
Tout à fait. Alors, il a été mensuel pendant ses débuts, et puis aujourd'hui, on est plutôt en trimestriel, de par l'aspect économique qui ne permet pas de maintenir une fréquence aussi élevée qu'on le souhaiterait. Et puis aussi, c'est aussi pour se donner du temps de traiter certains thèmes. C'est-à-dire que la temporalité et la périodicité jouent aussi sur le contenu. Il s'agit aussi de prendre du recul par rapport à des problématiques. Safir News traite d'une manière quotidienne et donc on est obligé d'être auprès de l'actualité. Salam News va prendre de la distance et permettre de revenir sur des thèmes auxquels on est confronté régulièrement. Par exemple, là vous parlez des différentes polémiques qui ont existé, que ça soit le burkini, que récemment encore le décathlon ou d'autres. On va essayer de revenir sous un angle beaucoup plus distancié, avec du recul, et faire intervenir des spécialistes sur les différents domaines. Par exemple, ce qui aurait été intéressant en ce qui concerne l'affaire des décathlons, c'est peut-être regarder aussi l'aspect économique de la démarche de cette société française qui a lancé ce produit-là. Donc, au lieu de alimenter des polémiques, plutôt aller chercher les démarches des uns et des autres et d'essayer de comprendre l'impact que ça peut avoir au sein de la société. Ça va être du rôle de Salam News et aussi le support papier. Créer un rapport avec le lecteur qui est différent que celui du web. Et on a aussi un autre avantage à travers ce magazine, Salam News, c'est qu'on va chercher le lecteur. C'est-à-dire le fait de sa gratuité, du fait de sa distribution populaire, c'est-à-dire qu'on va chercher notre lecteur dans ses lieux de vie, et notamment les commerces de proximité, par exemple, des lieux culturels. On a des partenaires avec qui, comme l'Institut des cultures d'islam, où Salam News est distribué, par exemple, d'autres acteurs culturels. Donc, on va chercher le lecteur là où il est, dans son lieu de vie, et pouvoir lui transmettre des informations d'ensemble des thématiques sur le fait musulman. Et donc, c'est une autre démarche que sur le web et elle est autant aussi intéressante.
Hanan, quelle est l'audience maintenant des deux, à la fois de Safir News pour les questions quotidiennes et celle de Salam News par la réaction du lectorat? C'est une audience grandissante, il y a une interactivité avec les deux types de lectorat, ce sont les mêmes, ça s'entrecoupe?
Alors pour les chiffres, je vais laisser Mourad de répondre à cette question. Mais par contre, effectivement, il y a une interactivité avec nos lecteurs de Saphir News qui est bien plus forte qu'avec Salam News. Mais on a quand même toujours, je dirais, une relation avec les lecteurs de Salam News, notamment à travers les abonnements. Donc c'est comme ça aussi qu'on arrive à recevoir, à avoir des feedbacks de la part de nos lecteurs. Oui, il y a, on va dire, un public qui va s'entrecouper entre Saphir News et Salam News, mais encore une fois, globalement, elle reste différente parce que ceux qui vont ceux qui vont s'attacher à aller sur le web ne sont pas spécialement ceux qui vont lire le papier. C'est vrai que, comme l'a dit Mourad Latrèche, ils sont distribués dans des instituts culturels et elles sont distribuées aussi à la fois dans des commerces de proximité. Donc on va toucher vraiment des personnes, des profils différents. Voilà, et c'est ce qui fait un peu quelque part la force aussi de Salam News. En ce qui concerne Saphir News, on va toucher effectivement alors un public très large, pas uniquement musulman, mais ceux qui sont intéressés par le fait musulman, et aussi bien un public jeune qu'un public professionnel, c'est-à-dire ceux qui constituent parmi les chercheurs, des professeurs. C'est comme ça aussi que Saphir News est finalement devenue, on va dire, une référence pour ce public-là, parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver de l'information et trouver, on va dire, de quoi, on va dire, nourrir aussi leurs réflexions et nourrir les débats qui seront amenés à avoir avec les gens qui sont autour d'eux. Voilà.
Nous arrivons au terme de l'émission. Le dernier mot, c'est peut-être pour vous, Mourad Latrèche. J'ai vu qu'il y a aussi des espaces de réaction des lecteurs qui écrivent. C'est tous azimuts. Il y a des rubriques de psychologie, des conseils. C'est comme ça que vous voyez l'avenir de Saphir News?
Oui, tout à fait. C'est de pouvoir... On s'est toujours défini comme généraliste et je pense qu'on a vraiment cette vocation-là à Saphir News. On n'a pas forcément les moyens d'atteindre vraiment les objectifs tout de suite, mais je pense qu'on s'inscrit dans le temps. Et je pense que pour nous, le temps est un élément très important à Saphir, c'est-à-dire qu'on prend le temps de faire les choses. Et donc effectivement, apporter un contenu qui n'est pas forcément recherché sur le web, parce qu'on a affaire plutôt à un public très engagé, etc., offrir un contenu d'apaisement, une richesse culturelle, éducative, etc., je pense que c'est un rôle qu'on s'est assigné et qu'on a à cœur de réaliser. Et donc, effectivement, on aimerait développer cette partie-là, et notamment cette richesse culturelle qu'on aimerait développer plus sur Saphir News et Salam News. Et je pense que dans l'avenir, on sera amené à développer cette production éditoriale.
Bonne chance à vous. Merci infiniment. Merci. Hanan Benalhouma. Merci Mourad Latrèche de nous avoir expliqué et présenté ces deux médias, Saphir News et Salam News. C'était Question d'Islam, chers amis auditeurs. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Pierre Monteil et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lila. I can take the pitchfork from the devil, keep a super suit like I'm incredible. Blue sea to the dark blue sky, I'm the baddest man alive. I grab a crocodile by his tail, handcuff the judge and throw the cops in jail. Make the meanest woman break down and cry. Can't fly. I'm the baddest man.
rhymes and you knock on wood. Candy bear hooks, I terrorize your hood. Flashing max on the cop the way a gangster should. I snatch food from the mouth of a tiger. Take a gasoline bath and I walk through fire. Bear hug a grizzly, suck milk from a titty. Take the sergeant hat from his head and use it for a frisbee. Spit in the crocodile face, have a menage a trois with two female apes. They sleep in the barrel of butcher knives. I drink honey straight from the beehive. Buzzy jumping off the Empire State. Butt naked, rollerblading across the Golden Gate. Butt naked, with the baddest man alive, and I don't plan to die. When the Grim Reaper come, I look her right in his eye. I bust up in the face of the Witch of the East. Tell a great white shark to go and brush his teeth. I'm the man who stole the Golden Fleece, and I date rape beauty right in front of the beast. The baddest man alive, and I don't plan to die. Come on, somebody.
I'm the baddest man alive.